Chapitre 3. L'appel de Moïse. L'école de Dieu. Reprenons maintenant l'histoire personnelle de Moïse et considérons ce grand serviteur de Dieu pendant la période de sa vie qu'il passa dans la retraite, cette période qui ne comprend pas moins de 40 de ses meilleures années. Dans sa sagesse, le Seigneur mena son serviteur à l'écart, loin du regard des hommes, pour le former sous sa direction immédiate. Moïse en avait besoin. Il est vrai qu'il avait passé 40 années dans la maison du Pharaon, mais, bien que son séjour à la cour du roi n'ait pas été sans profit pour lui, ce qu'il y avait acquis n'était rien en comparaison de ce qu'il apprit dans le désert. Son séjour dans la maison du Pharaon a pu lui être utile. Le séjour au désert lui était indispensable. Rien ne peut remplacer la communion secrète avec Dieu, ni l'éducation que l'on reçoit à son école et sous sa discipline. Toute la sagesse des Égyptiens n'aurait pas rendu Moïse propre pour le service auquel il devait être appelé. Il aurait pu poursuivre une brillante carrière dans les écoles de l'Égypte et en ressortir couvert d'honneur, avec une intelligence enrichie de connaissances et le cœur plein d'orgueil et de vanité. Il aurait pu avoir conquis des titres à l'école des hommes et avoir encore à apprendre son ABC à l'école de Dieu. Car la sagesse et la science humaine, quelque valeur qu'elles puissent avoir par ailleurs, ne peuvent jamais faire de personne un serviteur de Dieu, ni qualifier quelqu'un pour remplir une charge dans le service divin. Elles peuvent rendre l'homme irrégénéré, propre à jouer un rôle devant le monde, mais il faut que celui que Dieu veut employer soit doué de qualités bien différentes, et qui ne s'acquiert que dans la retraite de la présence de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu ont dû apprendre par expérience la vérité de ce que nous venons de dire. Moïse, en Horeb, Élie, au torrent du Kérit, Ézéchiel, près du fleuve Kébar, Paul, en Arabie, et Jean, à Patmos. Et si nous considérons le divin serviteur, nous voyons que le temps qu'il passa dans la retraite a été à peu près 10 fois plus long que celui de son service public. Bien qu'il fût parfait en intelligence, il passa 30 années dans la maison d'un pauvre charpentier de Nazareth avant de paraître en public. Et encore, quand il fut entré dans sa carrière active, combien de fois ne se retirait-il pas loin du regard des hommes pour être seul avec Dieu ? Mais, demandera-t-on peut-être, comment répondre aux besoins pressants d'ouvriers qui se fait sentir s'il est nécessaire que tous passent par une éducation secrète aussi prolongée? C'est ici l'affaire du maître, non la nôtre. C'est lui qui sait susciter les ouvriers, et c'est lui aussi qui sait les former. Ce n'est pas là une œuvre d'homme. Dieu seul peut susciter et former un vrai serviteur, et s'il met du temps à l'éduquer, c'est qu'il le trouve bon ainsi. Une chose est évidente. C'est que Dieu a beaucoup tenu ses serviteurs seuls avec lui, soit avant, soit après leur entrée dans le service public. Et sans cette discipline, sans cette formation secrète, nous ne serons jamais que des théoriciens stériles et superficiels. Celui qui s'aventure dans une carrière publique sans s'être mesuré lui-même en la présence de Dieu ressemble à un navire mettant à la voile sans être convenablement lesté et qui ne peut que sombrer au premier coup de vent. En revanche, il y a, dans celui qui a passé par les différentes classes de l'école de Dieu, une profondeur, une solidité, une constance qui sont des éléments essentiels dans la formation d'un vrai serviteur. C'est pourquoi, quand nous voyons Moïse éloigné, à l'âge de 40 ans, de tous les honneurs et de toute la magnificence d'une cour royale, pour passer 40 années dans la solitude d'un désert, nous pouvons nous attendre à le voir fournir une carrière remarquable. La main de l'homme ne saurait façonner un vase à honneur utile au maître. De Timothée 2, verset 21. Dieu seul en est capable. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Exode 3, verset 1. Quel changement dans la vie de Moïse! Nous avons vu dans la Genèse que tous les bergers sont une abomination pour les Égyptiens. Chapitre 46, verset 34. Néanmoins, Moïse, qui était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, est transporté depuis la cour d'Égypte jusque dans les montagnes pour y garder un troupeau de brebis et y être formé pour le service de Dieu. Voir un homme ainsi doué et instruit être appelé à quitter sa haute position pour garder des brebis est quelque chose d'incompréhensible pour l'homme. C'est quelque chose qui abaisse son orgueil et sa gloire, manifestant à tous que les avantages humains ont peu de valeur devant Dieu, bien plus qu'ils ne sont que comme des ordures, Philippiens 3, verset 8, aux yeux du Seigneur et aux yeux de tous ceux qui ont été enseignés à son école. Il y a une immense différence entre l'enseignement humain et l'enseignement divin. Le premier a pour but de cultiver et d'exalter la nature humaine, la chair. Le second commence par la sécher et la mettre de côté. Ésaïe 40, verset 6 à 8, 1 Pierre 1, verset 24. L'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Vous aurez beau élever et instruire l'homme naturel, jamais vous n'en ferez un homme spirituel. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Si jamais un homme naturel cultivé a pu s'attendre à avoir du succès dans le service de Dieu, ce fut Moïse. Il était beau, il était instruit, il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Acte 7, verset 22. Et néanmoins, il avait à apprendre, derrière le désert, quelque chose que les écoles de l'Égypte ne lui auraient jamais enseigné. Paul apprit plus en Arabie qu'il n'en avait jamais appris au pied de Gamaliel. Nul ne peut enseigner comme Dieu, et il faut que tous ceux qui veulent apprendre de lui soient seuls avec lui. Puissiez-vous, cher lecteur, éprouver par votre propre expérience ce que signifie derrière le désert, ce lieu sacré où l'homme est abaissé dans la poussière et où Dieu seul est exalté. Là, le monde et le moi sont estimés à leur juste valeur. Là, et nulle part ailleurs, vous trouverez une balance divinement juste pour peser tout ce qui est au-dedans de vous, comme tout ce qui vous entoure. Tout y est réalité. Le cœur y a de justes pensées sur toute chose. Il est élevé bien au-dessus de l'influence fiévreuse des affaires de ce monde. On n'y est pas tenté par les ambitions de cette terre, et la soif de l'or ne s'y fait pas sentir. Les yeux n'y sont pas obscurcis par la convoitise, le cœur n'y est pas gonflé par l'orgueil. On n'y est pas plus enflé par les louanges des hommes que découragé par leur blâme. Dans le calme et la lumière de la présence divine, on n'entend rien d'autre que la voix de Dieu. On jouit de sa lumière, on reçoit ses pensées. Voilà le lieu où doivent aller tous ceux qui veulent être enseignés pour le ministère. Et c'est là qu'ils doivent tous rester, s'ils désirent travailler avec succès dans l'œuvre. Le buisson ardent. Examinons maintenant ce que vit et entendit Moïse derrière le désert. Nous l'avons déjà dit, il apprend là des choses qui surpassent de beaucoup l'intelligence des savants les plus doués de l'Égypte. Il peut sembler à la raison humaine que c'est une étrange perte de temps, pour un homme comme Moïse, que de passer 40 années à garder des brebis dans le désert. Mais Moïse était là avec Dieu, et le temps passé avec Dieu n'est jamais perdu. Il est bien profitable pour nous de nous souvenir qu'il y a pour le serviteur de Christ quelque chose de plus que d'être actif seulement. Celui qui agit toujours est exposé à faire trop, et aurait besoin de méditer avec soin ces paroles du Seigneur parfait. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Ésaïe 50, verset 4. Écoutez est une partie indispensable de l'œuvre du serviteur. Il faut qu'il se tienne fréquemment dans la présence du Maître, afin qu'il sache ce qu'il a à faire. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Jacques 1, verset 19. Cette exhortation opportune repose sur deux faits. Savoir que tout ce qui est bon vient d'en haut, et que le cœur est plein d'une méchanceté toujours prête à déborder. C'est pourquoi il faut que l'oreille soit ouverte et que la langue soit tenue en bride. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. » versets 2 et 3. C'était effectivement une grande vision, qu'un buisson en feu ne se consumant point. La cour du Pharaon n'aurait jamais pu offrir rien de pareil. C'était une vision de grâce qui exprimait la condition du peuple élu. Il était au milieu de la fournaise de l'Égypte, et l'Éternel se révèle dans un buisson ardent. Et comme le buisson, il n'était pas consumé, parce que l'Éternel était là. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Psaume 46, verset 7. Il y a là force et sécurité, victoire et paix. Dieu avec nous, Dieu en nous, et Dieu pour nous, nous n'avons pas besoin d'autre chose. La sainteté de Dieu. La manière dont il a plu à l'Éternel de se révéler à Moïse, dans le passage qui nous occupe, est particulièrement instructive. Dieu allait lui donner la charge de retirer son peuple hors d'Égypte, afin que ce peuple soit son assemblée, sa demeure dans le désert et au pays de Canaan. Et c'est du milieu d'un buisson en feu qu'il lui parle. Symbole solennel de l'Éternel habitant au milieu de son peuple élu et racheté. Notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. Non pour nous consumer, nous, mais pour consumer tout ce qui, en nous et autour de nous, est contraire à sa sainteté, et par conséquent ennemi de notre vrai bonheur. Tes témoignages sont très sûrs. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours. Psaume 93, verset 5. L'Ancien et le Nouveau Testament renferment plusieurs cas où Dieu se manifeste comme un feu consumant. Ainsi, en Lévitique 10, le feu dévore Nadab et Abihu. L'Éternel habitait au milieu de son peuple et il voulait maintenir celui-ci dans une condition digne de lui. Il ne pouvait faire autrement. Ce ne serait ni pour sa gloire, ni pour le profit des siens, s'il devait tolérer en ceci quoi que ce soit d'incompatible avec la pureté de sa présence. Il faut que la demeure de Dieu soit sainte. De même, lorsqu'il s'agit du péché d'Acan, Josué 7, nous voyons que l'Éternel ne peut sanctionner le mal par sa présence, quelle que soit la forme que ce mal puisse revêtir, si caché qu'il puisse être. L'Éternel était un feu consumant. Et comme tel, il devait agir à l'égard de tout ce qui pouvait souiller l'assemblée au milieu de laquelle il habitait. Chercher à unir la présence de Dieu à un mal non jugé est un des caractères de la méchanceté. Ananias et Saphira, acte 5, nous apprennent la même leçon solennelle. Dieu habitait dans l'Église, par l'Esprit, non pas seulement comme influence, mais comme personne divine. Et de telle façon qu'on ne pouvait mentir à l'Esprit-Saint. L'Église est la demeure de Dieu, et il faut que ce soit lui qui gouverne et qui juge au milieu d'elle. Les hommes peuvent marcher de compagnie avec l'imposture, la convoitise et l'hypocrisie, mais Dieu ne le peut pas. Si Dieu marche avec nous, il faut que nous jugions nos voies, sinon il les jugera pour nous. Voyez aussi 1 Corinthiens 11, versets 29 à 32. Dans chacun de ces cas, et dans beaucoup d'autres que nous pourrions citer, nous voyons la force de cette parole solennelle « La sainteté sied à ta maison, ô Éternel » Psaume 93, verset 5. Pour celui qui l'a comprise, cette vérité produira toujours un effet moral analogue à celui qu'elle eut sur Moïse. N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 5. Le lieu de la présence de Dieu est saint. On ne peut y marcher qu'avec des pieds déchaussés. Dieu, par le fait qu'il habite au milieu de son peuple, lui communique un caractère de sainteté, fondement de toute affection et de toute activité. Le caractère de l'habitation reflète le caractère de celui qui l'habite. L'application de ce principe à l'Église, qui est maintenant l'habitation de Dieu par l'Esprit, est de la plus haute importance pratique. Comme il est heureusement vrai que Dieu, par le Saint-Esprit, habite dans chaque croyant individuellement et donne ainsi un caractère de sainteté à l'individu, il est vrai également qu'il habite dans l'assemblée et que, par conséquent, l'assemblée doit être sainte. Le centre autour duquel les membres sont rassemblés n'est rien de moins que la personne d'un Christ vivant glorieux et glorifié. La puissance qui les rassemble n'est rien de moins que le Saint-Esprit, et le Seigneur Dieu Tout-Puissant demeure en eux et marche au milieu d'eux. Vous voyez Matthieu 18, verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 19, 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, Éphésiens 2, verset 21 et 22. Si telles sont la sainteté et la dignité qui appartiennent à la demeure de Dieu, il est évident que rien d'impur ne doit y être toléré. Nous devrions sentir davantage l'importance et le sérieux de cette parole. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, verset 17. Ces paroles sont dignes de la plus grande attention de la part de tous ceux qui composent l'assemblée de Dieu, de la part de toute pierre vivante faisant partie de son saint temple. La grâce de Dieu envers son peuple. Mais les visions du mont Horeb rendent témoignage à la grâce du Dieu d'Israël aussi bien qu'à sa sainteté. La sainteté de Dieu est infinie, mais sa grâce l'est aussi. Et si la manière dont il s'est révélé à Moïse fait connaître la première, le fait même qu'il s'est révélé atteste la seconde. Il descendit parce qu'il était miséricordieux, mais après qu'il fut descendu, il fallait qu'il se révèle comme étant saint. Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Verset 6. L'homme naturel se cache toujours dans la présence de Dieu, et quand nous sommes ainsi devant Dieu, ayant les pieds déchaussés et la face voilée, c'est-à-dire étant dans la disposition d'âme que ses actes expriment, nous sommes dans les conditions voulues pour écouter la voix de la grâce. Quand l'homme prend la place qui lui convient, Dieu peut lui parler le langage de la miséricorde. Et l'Éternel dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. » Versets 7 à 9. La grâce du Dieu d'Abraham et de sa postérité, grâce absolue, inconditionnelle, brille ici de tout son éclat. Elle n'est pas entravée par les « si » et les « mais », les vœux, les résolutions et les conditions de l'esprit légal de l'homme. Dieu était descendu pour se manifester lui-même en grâce souveraine, pour opérer l'œuvre du salut tout entière, pour mettre à exécution la promesse qu'il avait faite à Abraham et qu'il avait renouvelée à Isaac et à Jacob. Il n'était pas descendu pour voir si, de fait, les objets de cette promesse étaient dans une condition telle qu'ils méritaient son salut. Ils avaient besoin de ce salut, et cela lui suffisait. Il avait considéré l'oppression sous laquelle ils gémissaient. Il avait vu leur douleur, leurs larmes, leurs soupirs, leur dur esclavage, car, béni soit son nom, il compte les allées et les venues de son peuple et met leurs larmes dans ses vaisseaux. Psaume 56, verset 8. Il n'était attiré ni par leur mérite ni par leur vertu. Ce n'est pas, pour quoi que ce soit de bon qu'il aurait vu en eux, qu'il se préparait à les visiter, car il savait ce qui était en eux. Le seul fondement de l'intervention miséricordieuse de l'Éternel en faveur de son peuple nous est révélé dans ses paroles « Je suis le Dieu d'Abraham » et « J'ai vu l'affliction de mon peuple ». Ces paroles révèlent un principe fondamental dans les voies de Dieu. Dieu agit toujours en vertu de ce qu'il est. Celui qui a le nom « Je suis » assure toute chose pour ceux qu'il appelle « mon peuple ». Il est certain que l'Éternel n'allait pas laisser son peuple au milieu des fours à briques de l'Égypte et sous le fouet des commissaires du Pharaon. C'était son peuple, et il voulait agir à l'égard de ce peuple d'une manière digne de lui-même. Le fait qu'Israël était le peuple de l'Éternel, l'objet favorisé de son amour et de son élection, l'objet de sa promesse inconditionnelle, réglait toute chose. Rien ne pouvait empêcher la manifestation publique de la relation de Dieu avec ceux auxquels, dans ses conseils éternels il avait assuré la possession de la terre de Canaan. Il était descendu pour les délivrer. Et les forces réunies du monde et de Satan n'auraient pas pu les retenir en captivité une heure au-delà du temps qu'il avait fixé. Il a pu se servir de l'Égypte comme d'une école et du Pharaon comme d'un maître, mais une fois l'œuvre nécessaire accomplie, le maître et l'école ont été mis de côté, et son peuple a été délivré à main forte et à bras étendus. Le secret d'un service efficace. Tel est donc le double caractère de la révélation faite à Moïse sur le mont Horeb. La sainteté et la grâce se trouvaient réunies dans ce qu'il vit et entendit. Ces deux éléments entrent dans toutes les voies et toutes les révélations de Dieu et les caractérisent d'une manière distincte. Ils devraient caractériser également les voies de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, agissent pour Dieu et en communion avec lui. Tout serviteur fidèle est envoyé de devant la présence immédiate de Dieu avec toute la grâce et toute la sainteté qui y habite. Il est appelé à être saint et plein de grâce pour refléter sur la terre ce double trait du caractère de Dieu. Pour cela, il faut qu'en esprit il demeure habituellement dans sa présence. C'est là le vrai secret d'un service efficace. Si l'on veut agir pour Dieu au dehors, il faut être avec lui au dedans. Plusieurs manquent à cet égard et tombent. Nous sommes continuellement en danger de sortir du calme de la présence divine pour nous plonger dans l'excitation du service actif et de l'agitation qu'amènent nos rapports avec les hommes. Nous avons à veiller soigneusement sur nous-mêmes à cet égard. Si nous perdons cette sainte disposition d'esprit que représentent ici les pieds déchaussés, notre service deviendra bien vite insipide et sans profit. Si nous laissons notre œuvre se placer entre notre cœur et le Maître, elle ne vaudra pas grand-chose. Nous ne pouvons servir Christ d'une manière efficace que si nous jouissons de lui. C'est lorsque notre cœur est occupé de ses perfections que nos mains le servent de la manière la plus agréable à ses yeux. Aussi, personne ne peut présenter Christ aux autres avec révérence, avec fraîcheur et avec puissance, à moins qu'il ne se nourrisse de Christ dans le secret de sa propre âme. Il peut, il est vrai, prêcher un sermon, faire un discours, prononcer des prières, écrire des livres ou accomplir n'importe quel acte de service extérieur, mais pour tout cela, il ne sert pas Christ. Celui qui veut présenter Christ aux autres doit être occupé de Christ pour lui-même. Heureux l'homme qui sert ainsi, quel que soit le succès visible de son travail ou l'accueil fait à son ministère. Car lors même que ce ministère n'attirerait pas l'attention ou ne produirait pas de résultats apparents, ce croyant a en Christ une douce et bienheureuse retraite, et une part que rien ne peut lui ôter. Au contraire, celui qui ne se nourrit que des fruits de son ministère, qui prend son plaisir dans les jouissances qu'il procure, ou dans l'attention et l'intérêt qu'il suscite, ressemble à un conduit qui, apportant l'eau à d'autres, ne retient rien pour lui-même que de la rouille. C'est quelque chose de déplorable que d'être dans une condition pareille, et néanmoins c'est la condition dans laquelle se trouve tout serviteur qui s'occupe davantage de son œuvre et des résultats de cette œuvre que du Maître et de sa gloire. Nous avons à nous juger nous-mêmes sévèrement sur ce sujet. Le cœur est rusé et l'ennemi est habile. Prêtons une grande attention à cette parole d'exhortation. Soyez sobres, veillez. 1 Pierre 5, verset 8. Quand l'âme a été amenée à réaliser les dangers nombreux et variés dont le sentier du serviteur de Christ est environné, alors elle est en état de comprendre le besoin qu'elle a d'être beaucoup seule avec Dieu. Là, on est heureux et en sûreté. C'est quand nous commençons, quand nous poursuivons et achevons notre œuvre au pied du Maître, que notre service est le vrai service. L'envoi de Moïse. D'après tout ce que nous venons de considérer, il doit être évident pour mon lecteur que l'air que l'on respire derrière le désert est un air fort salutaire pour tout serviteur de Christ. Horeb est le véritable point de départ de tous ceux que Dieu envoie pour qu'ils travaillent pour lui. C'est en Horeb que Moïse apprit à déchausser ses pieds et à se voiler la face. 40 ans auparavant, il s'était mis à l'œuvre, mais ce mouvement avait été prématuré. Ce fut dans les solitudes de la montagne de Dieu et du milieu du buisson en feu que sortit le message divin, « Et maintenant viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Verset 10. La différence est immense entre être envoyé de Dieu et courir sans être envoyé. Il est évident que Moïse n'était pas mûr pour le service quand, 40 ans auparavant, il tua l'Égyptien et chercha à mettre la paix entre ses frères. Il a fallu qu'il soit enseigné de Dieu, puis envoyé par lui. Il en est de même de tous ceux qui entrent dans une carrière de service et de témoignage pour Christ. Dieu veuille que ces grandes leçons soient profondément gravées dans nos cœurs et qu'ainsi toutes nos œuvres portent l'empreinte de l'autorité et de l'approbation du Maître. Mais nous avons quelque chose d'autre encore à apprendre au pied du mont Horeb. Il est bon de s'y arrêter. Le lieu de la présence de Dieu est toujours un lieu d'exercice où le cœur est sûr d'être mis à découvert. La lumière qui luit dans cette sainte retraite manifeste toute chose. Et c'est ce dont nous avons un si grand besoin, à cause de l'orgueil et de la propre satisfaction qui sont au-dedans de nous. Nous aurions pu penser qu'au moment même où Moïse reçut le message divin, il s'empresse de répondre « Me voici » ou « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Mais non, il fallait encore qu'il soit amené à cela. Le souvenir de sa première faute l'ébranlait sans aucun doute. Et Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël ?» Verset 11. Moïse, ici, ne ressemble guère à l'homme qui, 40 ans auparavant, croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main. Acte 7, verset 25. Tel est l'homme, tantôt trop prompt, tantôt trop lent à agir. Moïse avait bien appris des choses depuis le jour où il avait frappé l'Égyptien. Il avait fait des progrès dans la connaissance de lui-même, et cette connaissance le rendait défiant et craintif. Mais Moïse manquait encore de confiance en Dieu. Si je ne regarde qu'à moi-même, je ne ferai rien, mais si je regarde à Christ, je puis toutes choses. Ainsi, quand Moïse, poussé par la défiance et la crainte, répondit « Qui suis-je ?», Dieu lui répliqua « Je serai avec toi ». Verset 12. Cela aurait dû lui suffire. Si Dieu est avec moi, qu'importe qui je suis ou ce que je suis. Quand Dieu lui dit « Je t'enverrai et je serai avec toi », le serviteur est abondamment pourvu d'autorité et de puissance divine, et il devrait par conséquent être parfaitement à l'aise et content d'aller là où Dieu l'envoie. Je suis celui qui suis. Mais Moïse pose une autre question, car le cœur humain est plein de questions. Et Moïse dit à Dieu, « Voici, quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Verset 13. Il est étrange de voir comment le cœur humain raisonne et questionne, alors qu'il doit à Dieu une obéissance inconditionnelle. Mais ce qui est merveilleux, c'est la grâce qui supporte tous ces raisonnements et répond à toutes ces questions. Chacune d'elles devient une occasion pour faire ressortir quelques traits nouveaux de la grâce. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Verset 14. Le titre que Dieu prend ici est merveilleusement significatif. En recherchant dans l'Écriture les divers noms que Dieu prend, nous voyons que ces noms sont en rapport intime avec les divers besoins de ceux avec lesquels il s'est trouvé en relation. Il se révèle sous tous ces noms de Jéhovah Jiré, l'Éternel y pourvoira, Genèse 22, verset 14, Jéhovah Nissi, l'Éternel m'en enseigne, Exode 17, verset 15. Jéhovah Tsikenu, l'Éternel notre justice, Jérémie 33, verset 16. Jéhovah Shalom, l'Éternel de paix, Juges 6, verset 24. Pour satisfaire aux besoins de son peuple. Et quand il s'appelle Je suis, ce titre renferme tous les autres. Quelle grâce que d'être appelé à marcher en compagnie de celui qui porte un nom pareil. Dieu allait faire traverser le désert à son peuple quand il révéla son nom à Moïse. Nous aussi, nous sommes dans le désert et nous y rencontrons des épreuves, des afflictions et des difficultés. Mais puisque nous jouissons du privilège de pouvoir recourir en toutes circonstances à celui qui se révèle à nous dans sa grâce infiniment variée, en vue de tous nos besoins et de toute notre faiblesse, nous n'avons pas à craindre le désert. Bien que nous possédions l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons dire « Abba Père », nous n'avons pas pour autant perdu le privilège de jouir de la communion avec Dieu dans toutes les diverses manifestations qu'il lui a plu de faire de lui-même. Le nom de Dieu, par exemple, est un titre qui le révèle comme agissant dans sa propre essence, manifestant sa puissance éternelle et sa divinité dans les œuvres de la création. Il prend le nom de l'Éternel Dieu en connexion avec l'homme. Puis, comme le Dieu Tout-Puissant, il apparaît à son serviteur Abraham pour l'affermir dans l'assurance qu'il accomplirait la promesse qu'il lui avait faite touchant sa descendance. Comme Jéhovah, ou l'Éternel, il se fait connaître à Israël en le délivrant du pays d'Égypte et en le conduisant dans le pays de Canaan. C'est ainsi que, en diverses mesures et en des manières différentes, Dieu a autrefois parlé au Père par les prophètes. Hébreux 1, verset 1. Et le croyant de l'économie actuelle, parce qu'il possède l'esprit d'adoption, peut dire « C'est mon Père qui s'est révélé ainsi, qui a parlé ainsi, agi ainsi. » Il est extrêmement intéressant d'étudier ces grands noms que Dieu prend dans les différentes dispensations. Ces noms sont toujours employés en accord moral avec les circonstances dans lesquelles ils ont été révélés, mais il y a dans le nom « Je suis » une hauteur et une profondeur, une longueur et une largeur qui surpassent toute conception humaine. De plus, il importe de le remarquer, ce n'est qu'en relation avec son peuple que Dieu prend ce titre. Ce n'est pas sous ce nom qu'il s'est adressé au Pharaon. Quand il lui parle, il prend le titre imposant et majestueux de « l'Éternel, le Dieu des Hébreux ». Savoir, Dieu en relation avec ce même peuple que le Pharaon cherchait à écraser. Cela aurait dû suffire pour faire connaître au Pharaon la terrible position dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de Dieu. « Je suis » aurait été pour lui inintelligible et n'aurait communiqué aucune réalité divine à son cœur incrédule. Lorsque Dieu manifesté en chair fit entendre aux Juifs infidèles de son temps, « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean 8, verset 58, ils levèrent des pierres pour les jeter contre lui. Il n'y a que le croyant qui puisse éprouver la puissance et jouir de la valeur du nom de « Je suis ». C'était à son peuple élu que Dieu avait commandé à Moïse de dire « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous ». Néanmoins, si nous le considérons en rapport avec l'infidèle, ce nom renferme quelque chose de profondément sérieux. Si un homme encore dans ses péchés contemple un instant ce titre merveilleux, il doit se demander « Quelle est ma position vis-à-vis de cet être qui s'appelle « Je suis celui qui suis » Si véritablement il l'est, qu'est-il pour moi ?» Je ne puis terminer ce chapitre sans appeler l'attention de mon lecteur chrétien sur l'importante déclaration contenue dans le verset 15. « Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, et c'est là mon mémorial de génération en génération. » Cette déclaration renferme une vérité que semblent oublier beaucoup de chrétiens, savoir que la relation de Dieu avec Israël est une relation éternelle. Il est tout autant le Dieu d'Israël maintenant que lorsqu'il visita ce peuple au pays d'Égypte. De plus, il s'occupe de lui aussi réellement maintenant qu'alors, seulement d'une autre manière. Dieu ne dit pas « C'est là mon nom, aussi longtemps qu'ils continueront à être ce qu'ils doivent être », mais « C'est là mon nom éternellement. » Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Romains 11, verset 2. Obéissant ou désobéissant, réuni ou dispersé, manifesté aux nations ou caché à leur vue, les enfants d'Israël sont encore son peuple, et Dieu est leur Dieu. Bientôt, il manifestera à la vue de toutes les nations de la terre que sa relation avec Israël est une relation éternelle. Les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains 11, verset 29. « Je suis » a déclaré qu'il était le Dieu d'Israël éternellement, et tous les gentils seront amenés à comprendre cette vérité et à s'incliner devant elle. Ils seront aussi amenés à reconnaître que les voies providentielles de Dieu envers eux sont liées, d'une manière ou d'une autre, avec ce peuple favorisé, bien que maintenant jugé et dispersé. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Deutéronome 32, versets 8 et 9. Ce que Dieu a dit, a-t-il cessé d'être vrai? L'Éternel a-t-il abandonné le lot de son héritage? Le regard de son amour ne repose-t-il plus sur les tribus dispersées d'Israël, depuis longtemps perdues de vue par les hommes? Les murailles de Jérusalem ne sont-elles plus devant lui, ou sa poussière a-t-elle cessé d'être précieuse devant ses yeux? Je rappellerai seulement, pour terminer, que la chrétienté ne doit pas ignorer ce mystère, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Romains 11, versets 25 et 26.